Les deux orphelines, deuxième partie, chapitre 2. Ce n'était pas par fanfaronnade que Jacques Frochard avait dit à Pierre le rémouleur, dont il raillait la pusillanimité. « C'est le sang d'un agneau qui coule dans tes veines. C'est le sang de notre père qui bout dans les miennes. Depuis 150 ans, excepté toi, l'avorton, nous sommes tous comme ça dans la tribu des Frochards. Quand le diable a semé sa graine de bandit sur terre, on dirait que son sac s'est crevé chez nous. » Ce fils, qui revendiquait la célébrité des criminels pour ses ascendants, avait été élevé dans l'admiration des exploits de ce père que la Frochard portait aux nues lorsqu'elle voulait le donner en exemple à Pierre, malheureux estropié, qui, ainsi qu'elle le disait avec colère, voulait se mêler d'être honnête. L'horrible mégère, qui se flattait en toutes circonstances d'avoir été la compagne fidèle du supplicié, avait voué à la mémoire de ce bandit un véritable culte auquel ni le temps ni les épreuves subies n'avaient porté atteinte. Aussi se complaisait-elle dans l'admiration constante de Jacques, qu'elle considérait comme le portrait vivant de cet Anatole, du séducteur irrésistible, du maître qui subjuguait d'un regard, de l'homme courageux et fort devant qui tout devait plier. Et dans l'exaltation qui s'emparait d'elle au souvenir de l'être si violemment aimé, elle s'écriait « Jacques, mon chérubin, quand je te regarde, il me semble le voir. » C'était un rude gaillard, un homme qui n'a jamais eu peur, ni de Dieu, ni du diable. Cette cynique créature était fière de voir revivre dans son fils aîné tous les traits et les vices du misérable issu d'une infâme tribu de criminels et qui avait, de beaucoup, distancé la célébrité de ses ancêtres. Pour Anatole Frochard, la graine de bandit avait promptement germé. Dès son adolescence, le futur supplicié était déjà un détestable garnement. Plus tard, dès l'âge de 20 ans, il faisait marcher de front de nombreuses et faciles conquêtes et ses premiers essais dans le crime. Grand, solidement bâti et doué d'une vigueur athlétique, il avait, par un bizarre caprice de la nature, un visage doux et souriant, des traits efféminés et un regard qui passait, en moins d'une seconde, de la plus caressante tendresse à la dureté la plus féroce. Des yeux de gazelle ou de tigre. Dans le monde interlope que fréquentait ce redoutable belâtre, nul ne savait au juste qui il était, ni d'où il venait. Il séduisait les femmes par le charme étrange de son visage, par la puissance irrésistible de son regard. Il imposait aux hommes par sa mâle énergie et par sa force herculéenne. Sa vie était entourée de mystères. Quand ses ressources étaient épuisées, quand la misère le talonnait de près, il disparaissait tout à coup, sans qu'on pût soupçonner ce qu'il était devenu. L'absence se prolongeait plus ou moins, puis, un beau jour, il revenait parmi ses compagnons de débauche et ses honteuses orgies renaissaient de nouveau grâce à l'argent mystérieusement acquis. Ce mystère, c'était le crime dont il dédaignait les chemins battus. Le vol vulgaire lui paraissait un jeu d'enfant, indigne de son intelligence et de son audace. Il ne méditait que de grands coups accomplis au milieu des périls. Une affaire devait toujours être pour lui une véritable bataille dans laquelle il était résolu à risquer sa vie aussi bien que sa liberté, quitte à se défendre avec acharnement et à faire payer cher son existence s'il se voyait perdu. C'est avec cette insouciance du danger que Frochard avait accumulé forfait sur forfait, si bien qu'à 25 ans, il n'en était plus à compter les vols avec effraction, les arrestations à main armée, les attaques nocturnes sur les grandes routes, les invasions de fermes isolées où il allumait au besoin l'incendie. Il n'avait pas de spécialité comme certains de ses devanciers célèbres dans le crime. Tout lui était bon, pourvu qu'il arrivât à posséder l'argent qu'il convoitait. Et cet argent obtenu, il le jetait largement aux quatre vents de ses fantaisies, courant les guinguettes et les tripots, jusqu'à complet épuisement du butin récolté dans ses criminels équipés. C'est à la suite d'une de ses expéditions qu'Anatole Frochard fit la rencontre de celle qui devait devenir sa compagne, l'admiratrice passionnée de son génie malfaisant, l'esclave dévouée jusqu'à la mort. Le bandit, ce jour-là, avait éprouvé un échec, le premier depuis qu'il avait débuté dans la carrière de ses aïeux. Surpris dans l'accomplissement d'une arrestation à main armée, presque aux portes de Paris, Frochard avait tout d'abord voulu tenir tête aux agents qui le poursuivaient. Mais, voyant qu'il était impossible de résister au nombre, il avait jugé prudent, une fois par hasard, de mettre à profit ses connaissances en fait de gymnastique. Franchissant un fossé bordé d'une haie, il eut bientôt mis une grande distance entre lui et ceux qui lui donnaient la chasse. Les agents n'avaient eu que la ressource de lui envoyer quelques coups de feu dont l'un l'avait atteint à la jambe. Mais l'énergique bandit ne poussa pas un cri. Tombé sur le genou, il se releva comme un lièvre blessé et, comme lui, il détala avec la plus grande agilité, sans se préoccuper de la blessure reçue et luttant contre la douleur. C'était, heureusement pour lui, par une nuit tout à fait noire. Le fugitif se glissa sous une futaie afin de reprendre haleine et attendre le petit jour. Mais bientôt, la fanfare d'un coq lui ayant annoncé le voisinage d'une habitation, il résolut de se faire donner l'hospitalité de bonne volonté ou de force. Il sortit de sa cachette et arriva devant la maison. C'était une de ces auberges où s'arrêtaient les routiers, rentrant dans Paris pour boire de la piquette que leur servait une accorte jeune fille d'une vingtaine d'années, délurée, avenante à la pratique, très accessible aux privautés, et que l'aubergiste, un oncle à la mode de Bretagne, avait tenu sur les fonds baptismaux. Le brave homme s'était mis en tête, malgré un état de santé lamentable, d'arrondir une petite dot pour sa filleule, à laquelle il avait donné le prénom d'Euphémie. Euphémie trouvait-elle que la dot ne s'arrondissait pas assez vite, ou que l'oncle mourait trop lentement? Toujours est-il que la demoiselle, si aimable pour la clientèle, était devenue, à l'égard de son parent, singulièrement acariâtre depuis environ 2 ans. Sans pitié pour les souffrances endurées par le bonhomme, elle se refusait constamment à descendre au cellier, obligeant le pauvre diable à aller lui-même renouveler le vin des brocs. Par contre, la jeune servante devenait de plus en plus coquette, cherchant à attirer sur elle l'attention des rares voyageurs qui s'arrêtaient dans l'auberge. Depuis quelque temps même, il semblait qu'elle ne cherchât que l'occasion de prendre sa volée pour se lancer dans la vie de hasard. Paris l'attirait. C'est donc à la porte de cette auberge isolée sur la route que Frochard était venu frapper. Un chien se mit à aboyer. Au troisième coup qu'avait frappé le bandit, une fenêtre du premier étage s'entrebâilla pour laisser passer une tête de jeune fille déjà coiffée de nuit. « Qu'est-ce que vous demandez ?» fit Euphémie. « À souper et à coucher !» La fenêtre se referma. Au bout de quelques minutes, la nièce de l'aubergiste apparaissait au seuil de la porte qu'elle venait d'ouvrir. Frochard ne lui donna pas le temps de se reconnaître. En dépit de la protestation énergique mais inutile d'un chien enchaîné, il saisit la jeune servante et l'emporta dans ses bras à l'intérieur de l'auberge dont il referma la porte à double tour. Euphémie ne souffla mot. Elle eut même un sourire pour cet audacieux qui trouvait une façon si originale de pénétrer chez les gens. Et comme, après l'avoir remise sur ses pieds, l'inconnu s'était, sans plus de façon, assis sur un escabeau, « Vous êtes donc blessé ?» demanda la servante en remarquant une large tache de sang sur l'un des bas du nouveau venu. « Une égratignure. La balle n'a fait, je pense, qu'effleurer le mollet. » Euphémie regardait son interlocuteur avec une curiosité toute féminine. La beauté de l'inconnu l'avait frappée et elle était demeurée comme fascinée par le regard profond de Frochard. « Eh bien, la belle fille, » dit-il, « vous allez me soigner un brin, je suppose. »« Pourquoi pas ?» répondit la jeune fille, puis s'intéressant à l'inconnu. « Qui vous a blessé ?» interrogea-t-elle. Frochard hésita avant de répondre. Il lança un long regard sur elle, comme pour deviner ce qui se passait dans son esprit. Rassuré sans doute, il dit avec un geste énergique. « J'ai été blessé par des archers. Ils étaient trop nombreux sans cela. Que faisiez-vous donc pour qu'ils vous aient poursuivi ?» Cette fois, Frochard n'eut pas d'hésitation. Il voulait porter un grand coup sur l'imagination de la curieuse. « Je volais, » dit-il d'une voix calme. La servante d'auberge ne broncha pas. Elle n'essaya ni de fuir, ni d'appeler. Ce fut le tour de Frochard d'être étonné. « Vous n'avez donc pas peur de moi ? » fit-il en souriant. Et aussitôt, il ajouta. « J'aime mieux ça, parce qu'il m'en eût coûté de... » Il avait tiré de sa poche un long couteau bien emmanché dans une poignée de bois de fer et dont la lame triangulaire se terminait en une pointe acérée. Euphémie ne tressaillit pas plus à la vue de cette arme qu'elle n'avait manifesté de terreur devant l'homme qui se présentait à elle comme un malfaiteur poursuivi. « Vous êtes blessé, » reprit-elle. « Vous ne pouvez pas partir en ce moment. J'y compte bien. Vous resterez ici cette nuit. C'est mon intention. Venez. » Tout en dialoguant avec l'inconnu, la servante avait pris le chandelier, qu'en entrant dans la salle, elle avait posé sur la table en chêne massif qui occupait une bonne partie de la pièce. Cependant, le bandit, bien que fort rassuré, jugea bon de se renseigner sur les êtres de l'auberge. « Où veux-tu m'emmener ? » demanda-t-il en prenant familièrement la taille de la jeune fille. Puis, avec une œillade, « Dans ta chambre ?»« Que nenni, monsieur ! Les voyageurs n'ont pas coutume, à ce que je crois, de partager la chambre des servantes d'auberge. » Et souriant à son tour, « Du reste, ça ne serait pas possible. Pourquoi ? Parce que ma chambre communique avec celle de mon parrain. « Ah, tu es la filleule de l'aubergiste, oui. Alors, pourquoi n'est-ce pas lui qui soit venu ouvrir lorsque j'ai frappé ?»« Parce qu'il a ses rhumatismes. Il garde le lit ?»« Depuis 8 jours. Et c'est moi, » ajouta-t-elle avec un mouvement d'humeur, « c'est moi qui fais tout ici. »« Et ça te fatigue ?»« Ça m'ennuie. » Rochard remarquait que depuis quelques instants, Euphémie ne le quittait pas des yeux. L'irrésistible séducteur reparut en lui. « C'est dommage que le parrain soit ton voisin de chambre, » fit-il en relevant l'écrou de sa moustache, et changeant de ton. « Bah !» ajouta-t-il en jouant de l'ongle sur la pointe de son couteau. « S'il bronchait, on le clouerait un peu plus sur son lit, voilà tout !» Pour la seconde fois, le bandit fut frappé de l'impassibilité de la servante. Ce calme fit naître en lui autant d'admiration que de surprise. À ce moment, le chien de garde se mit à aboyer avec fureur. « Maudit caniche !» grommela Frochard. « Faut pas lui en vouloir !» murmura la jeune fille en baissant la voix. « Il est de très bonne garde, et s'il aboie ainsi, c'est que... Il entend marcher tout près ?»« Oui !» Sans en écouter davantage, Frochard éteignit la chandelle de résine et alla appliquer son oreille contre la porte. Le chien n'avait pas cessé d'aboyer. « Attendez !» fit la jeune fille. Je vais aller regarder par l'œil de bœuf du Galta. » Et précipitamment, elle s'élança dans l'escalier qui conduisait au grenier. Au bout de quelques instants, elle redescendait haletante et dit à l'inconnu. « C'est une bande de soldats ou d'agents. Ils sont à peine à 100 pas de l'auberge, » dit-elle. « J'ai pu voir luire l'acier des mousquets et des sabres. » Et saisissant Frochard par le bras. « Il vous reste tout juste le temps de vous cacher. Venez !» Guidant alors dans l'obscurité l'homme qui se fiait à elle, Euphémie le conduisit jusqu'à une trappe qu'elle souleva. « Il faut me suivre, » fit-elle à voix basse. « Je vais descendre la première. » D'un pied assuré, elle descendit les échelons d'un petit escalier mobile. « Nous allons donc à fond de cale, » dit en ricanant le bandit. Euphémie, sans répondre, précéda Frochard qu'elle tenait toujours par la main afin de le guider à travers les nombreuses futailles qui encombraient la cave. Après avoir fait plusieurs détours, il s'arrêta, sentant la muraille au bout de son pied. « Nous sommes arrivés ? » s'informa-t-il. « Oui, asseyez-vous là, il y a de la paille toute fraîche. » Et serrant la main de l'inconnu. « Surtout, quoi que vous entendiez, ne bougez pas. »« C'est convenu, » dit-il. Elle se retira et Frochard se laissa tomber sur la botte de paille en se disant à part soi. « Drôle de servante d'auberge !» Tout à coup, un bruit sourd le fit sursauter. C'était la trappe qui retombait. Frochard étouffa le juron qui allait s'échapper de sa bouche. Il n'avait pas pensé qu'on l'enfermerait, et son imagination se mit à travailler. N'aurait-il pas été la dupe d'une coquine qui le livrerait aux agents du lieutenant de police? S'il n'en était pas ainsi, pourquoi avait-elle pris la précaution de fermer l'ouverture de la cave, où, bien certainement, il ne prendrait pas aux archers la fantaisie de descendre? Frochard s'était levé. Avec 1000 difficultés pour éviter les chocs, il parvint, en tâtonnant, à trouver le passage précédemment suivi. Une imperceptible ligne lumineuse, rayant le plafond au-dessus de sa tête, lui indiqua qu'il se trouvait précisément au-dessous de la trappe. Il chercha l'escalier. Ses mains ne rencontraient partout que le vide. L'escalier avait disparu. la servante l'avait tiré après elle lorsqu'elle était remontée. Plus de doute, elle le trahissait, et il était prisonnier dans la cave. Lui, prisonnier, capturé par une jeune fille. Soudain, un bruit de bottes et de ferrailles retentit au-dessus de sa tête. Les soldats étaient entrés dans l'auberge, et il les entendait confusément parler et rire tous ensemble, sans pouvoir comprendre ce qu'ils disaient à la servante. Cependant, Frochard distinguait, au milieu de ces voix d'hommes, la voix claire de la jeune fille. Celle-ci, à un moment donné, poussa un long éclat de rire qui retentit profondément dans le cœur de Frochard. Pour la première fois de sa vie, le bandit éprouva une émotion. Il se sentit devenir pâle et une sueur froide inonda subitement son visage. Il écumait de rage. Lui, qui avait rêvé de dépasser en audace, en coups de vigueur, les grands scélérats au forfait devenus légendaires, il tombait, impuissant à se défendre, dans une souricière. Il était pris dans le piège qu'une enfant lui avait tendu. Il succomberait sans avoir pu faire payer cher sa capture. C'était une défaite écrasante, honteuse, c'était une fin déshonorante. À l'instinct de la conservation qu'il avait décidé à chercher un refuge, une issue peut-être, au fond de cette cage, avait succédé la fureur aveugle avec toutes ses exaspérations et tous ses rugissements. Il eut un bond de tigre, malgré la blessure qui paralysait en partie ses mouvements. Et sa tête vint presque toucher la trappe. Dans l'espace d'une seconde qu'avait duré ce saut prodigieux, Frochard avait pu percevoir distinctement ces mots prononcés sans doute par le chef de l'escouade. « Il ne nous échappera plus !» Puis, succédant à la voix d'homme, le rire argentin de la servante, ce rire nerveux des filles qu'on lutine. Plus de doute, la drôlesse trinquait avec les soldats. Le choc des gobelets d'étain continuait, entrecoupé d'éclats de voix et de gros rires. Mais, au bout de quelque temps, le silence se fait comme par enchantement. Que se passe-t-il dans la pièce d'en haut? Les agents se préparent sans doute à envahir la cave. Le bandit est prêt à s'élancer sur le premier qui paraîtra. Il retourne vers le fond du cellier. C'est là, pense-t-il, que la servante, qui l'a trahi, conduira les archers. Avec cette rapidité de conception qui lui était particulière, Frochard s'était ravisé. Il n'attendra pas qu'on arrive jusqu'à lui. S'il réussit dans son projet, c'est peut-être le salut. Le couteau entre les dents, il tâte des deux mains les barricades de futailles entre lesquelles il cherche l'endroit où il se glissera. Cette cachette, il vient de la trouver entre deux muits vides, séparés l'un de l'autre par une barrique de moindre contenance et qu'il pourra facilement enjamber. Il se blottit derrière cette sorte de rempart, accroupi sur les jarrets, et tout prêt à s'élancer sur le premier qui se montrera devant lui. Il attend, l'œil ardent, la main crispée sur le manche de son couteau. Tout à coup, la trappe grince sur ses gonds, et une vague lueur éclaire faiblement l'entrée de la cave. Le bruit de l'échelle qu'on descend parvient jusqu'aux oreilles attentives du bandit. C'est le moment décisif. Il entend qu'on marche avec précaution. La lueur devient plus vive et projette une ombre sur le sol. Frochard est prêt. Il a retrouvé tout son sang-froid et ce mépris de la mort qu'il a toujours eu en présence du danger. Le bruit de pas se rapproche. Frochard bondit le couteau levé. Mais l'arme ne s'est pas abattue sur la poitrine de la personne qui vient de se montrer. C'est Euphémie qui apparut. Après avoir posé à terre le chandelier, à l'entrée de la cave, la jeune fille le regarde en souriant et lui dit: ils sont partis. Maintenant, vous êtes sauvés. Tu es une vraie femme, s'écrie Frochard. Puis, saisissant Euphémie à bras-le-corps et la tenant serrée contre sa poitrine, tu es la femme qu'il me faut. Je t'ai trouvée, je te tiens et je te garde. Et pendant que leur cœur battait à l'unisson, ces deux êtres se fiançaient tacitement, attirés l'un vers l'autre par une mutualité de coupables instincts. Frochard, avons-nous dit, allait vite en besogne, autant en amour que pour l'accomplissement d'un crime. Euphémie se montra tout de suite à la hauteur du rôle qu'on lui réservait. Elle ne fut pas longue à prendre une résolution. Quelques jours suffirent pour que la blessure de Frochard entrât dans la période de cicatrisation. « Je suis maintenant solide sur mes jambes, » dit-il un matin. « Nous partirons cette nuit. »« Je suis prête, » répondit Euphémie. Alors commença le pillage de tous les objets de quelque valeur contenus dans l'auberge. La jeune fille empila dans un sac les écus économisés par le pauvre aubergiste pendant de longues années. « V'là ma dot, » fit-elle en riant, « et nous n'aurons pas besoin du notaire pour griffonner le contrat. « Tu peux laisser tes hardes ici, » dit le bel Anatole. « Je me charge de te trouver prochainement un trousseau de princesses. » Donc, la nuit venue, les deux misérables quittèrent la maison, laissant le malade endormi dans sa chambre. Mais à peine était-il sur le seuil de la porte que Frochard, se ravisant, rentra dans l'auberge. Le chien, voyant partir Euphémie, hurlait lamentablement. « Il va réveiller les voisins et faire découvrir notre fuite. « Attends un peu, » grommela le bandit. « Je vais te consoler, moi. » Et il pénétra vivement dans la cour, le couteau à la main. Une minute après, le chien n'aboyait plus. Euphémie attendait à quelques pas de là. S'impatientant de ne pas voir revenir son compagnon, elle allait se décider à rebrousser chemin lorsque Frochard reparut à la porte de l'auberge. « Partons, » commanda-t-il. « Qu'as-tu donc fait qui t'es retenu si longtemps ?» L'aubergiste s'était réveillé aux aboiements du chien. Je l'ai rendormi. Et sans donner à la jeune fille le temps de questionner de nouveau, ni de pousser un cri de surprise ou d'horreur, il lui saisit le bras, l'obligeant à le suivre. Pendant cette marche dans la nuit, sur la route déserte, ces deux êtres que le hasard s'était plu à rapprocher pour la ténébreuse existence des malfaiteurs se dirigeaient vers la grande ville que Frochard avait choisie pour y établir le centre des criminelles opérations qu'il projetait. Il gardait le silence. La servante, qui s'enfuyait, éprouvait-elle un remords tardif? Quant à Frochard, il rêvait aux expéditions nouvelles qui devaient faire la vie douce à cette femme qui venait de lier son existence à la sienne. Le bandit avait compris à première vue qu'elle était bien la compagne qui lui convenait. Il l'avait devinée comme le fauve devine sa femelle, au premier rugissement de soumission répondant à son premier rugissement d'amour. Cet accouplement avait eu lieu spontanément de part et d'autre, sans que la femme eût ressenti le moindre scrupule d'abandonner son bienfaiteur, sans que l'homme eût éprouvé une seconde de compassion pour un malheureux cloué sur son lit de douleur. La pitié n'avait jamais hanté le cœur de ce scélérat. Jamais il ne s'était laissé attendrir par les supplications des victimes, ni par les larmes et l'épouvante des enfants surpris dans leur sommeil, ni par l'effarement de vieillards impuissants à se défendre. La peur, pas plus que la pitié, n'avait jamais amolli sa férocité, et le mépris de la mort égalait chez lui le besoin de la vie de plaisir et de débauche. Et maintenant qu'il avait associé une femme à son existence, son audace allait s'accroître encore. La route s'étendait longue et droite devant eux, bordée d'arbres dont le vent tourmentait les cimes. De lourds nuages s'amoncelaient au loin sur la ville, dont la masse imposante se pointillait de lumières à l'horizon. C'était Paris qui dormait sous la garde des archers et des guetteurs de nuit. Frochard, le premier, rompit le silence. « Voilà ce Paris que tu aimes, » dit-il, « ce Paris que tu voulais connaître et qui va bientôt nous ouvrir ses portes. » En ce moment, l'attention de la jeune fille était tout entière sollicitée par un terrible spectacle. Et à son tour, indiquant un point dans la direction de l'auberge, « Regarde !» fit-elle d'une voix sourde. Une lueur rougeâtre envahissait tout un côté du ciel. « Eh bien quoi ?» répondit Frochard sans s'émouvoir. « C'est un bel incendie !» La fugitive quitta le milieu de la route, bondissant pour escalader le talus. Frochard l'y suivit aussitôt. « Le feu est à l'auberge » s'écria-t-elle. « Et c'est toi ?» Elle n'acheva pas, un éclat de rire strident, poussé par le bandit, lui avait coupé la parole. Les flammes se voyaient distinctement, et le vent apportait le bruit sourd de détonation. « Ce sont les futailles qui éclatent !» ricana Frochard. Alimenté par les vieilles boiseries, l'incendie faisait rage, dévorant la maison. Des gerbes d'étincelles s'élançaient du foyer comme un immense bouquet de feux d'artifice. « C'est toi qui as mis le feu à l'auberge !» murmura la jeune fille. « Oui !» répondit froidement le misérable. « Je n'aime pas à laisser de témoins à charge derrière moi. » Frochard avait relevé cyniquement la tête et regardait en plein visage son interlocutrice pour juger de l'effet qu'il avait pu produire sur celle-ci. Sous l'influence de ce regard, qui l'avait déjà subjuguée la première fois qu'elle s'était trouvée en face du fugitif, Euphémie n'eut ni un reproche pour l'incendiaire qui venait de commettre un crime inutile, ni un souvenir ému pour sa malheureuse victime. Elle se cramponna au bras du misérable et le suivit docilement. Frochard savait qu'il pourrait, désormais, compter sur le dévouement de celle qui allait partager sa vie et ses dangers. Et retrouvant sa gaieté, il s'écria en manière d'oraison funèbre. « Bah, un peu plus tôt, un peu plus tard, il y aurait passé tout de même !» La filleule de l'aubergiste ne sourcilla même pas à cette lugubre plaisanterie. Pendue au bras de son amant, elle continua à marcher, d'un pas ferme, et sans tourner une seule fois la tête, bien qu'elle entendît le crépitement sinistre que lui apportait le vent. Lorsqu'au bout de longues heures de marche, le couple eut franchi la barrière de Paris, le cœur de la jeune fille se dilata. C'était la vie d'aventure qui allait commencer pour elle. « Où demeures-tu » s'informa-t-elle aussitôt, en voyant son compagnon indécis sur la direction à prendre. « Où je demeure ? Partout où il me plaît d'élire domicile. Partout où me pousse ma fantaisie du moment. Je suis libre comme l'air. Et la grande ville est aussi bien à moi qu'elle l'est au roi. » Puis, après un silence, « Pour l'instant, continua-t-il, je suis sans gîte. Mais n'aie crainte, ma petite, nous ne coucherons pas pour ça à la belle étoile. » Faisant sonner le sac d'écu qu'il portait sous son bras, « Avec ça, la belle, on ouvre les portes de toutes les hôtelleries. On trouve de bons lits. Et bien qu'il soit tard, les hôteliers et leurs servantes nous salueront très bas. Ainsi donc, « Suis-moi sans crainte. » Il connaissait son pari sur le bout du doigt, l'infatigable rôdeur de nuit. Il fit suivre à sa compagne une partie du chemin de ronde en passant devant les trois portes Saint-Antoine. Arrivé dans le quartier de la Râpée, le couple enfila une petite rue dans laquelle, vers le milieu, se balançait en grinçant l'enseigne de l'auberge du Cygne. Ainsi que l'avait annoncé Frochard, la servante avait ouvert au premier coup frappé à la porte. « Tiens, « Monsieur Anatole ? » fit-elle avec une surprise de bon aloi. Et elle ajouta, « Comme il y a longtemps que vous n'êtes venu. Vous étiez donc en voyage ?»« Oui, c'est ça même, » répondit Frochard, « en voyage de noces. Et voici Madame Frochard. » La servante dévisagea d'un coup d'œil la compagne du bel Anatole en disant, « Peste, Monsieur Frochard, vous avez eu la main heureuse. » Et trottinant menu devant les deux voyageurs qui lui arrivaient, la grosse femme précéda le couple dans la plus belle chambre de l'établissement. « Tu vois, ma petite, qu'on a ici quelques considérations pour moi, » dit Frochard lorsque la servante fut partie. « C'est que je ne lésine pas sur la dépense. Les Frochards ont toujours payé en grand seigneur et bon chien chasse de race. »